SILAB,
en partenariat avec Rennes Métropole,
présente
Jeunesse des possibles.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Caroline, vous êtes sur Radio SILAB, il est 13h, on est ensemble pour les 30 prochaines minutes pour une nouvelle émission de la Jeunesse des possibles, émission proposée par Rennes Métropole. Aujourd'hui, nous accueillons trois invités aux profils différents, mais qui ont en commun de travailler autour de la question des droits culturels. Avec nous, Nathalie Ribem, chargée de mission développement des publics à la direction de la culture de Rennes Métropole. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Puis Ronald Pouplard, directeur de la caravane MJC à Cervon-sur-Vilaine et Bressay. Bonjour Ronald.
Bonjour.
Et enfin, nous recevons Charlotte Bondu, membre du conseil d'administration de la caravane MJC. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Lors de la dernière émission, nous recevions Ali et Alexis Ralaivao, deux jeunes artistes rennais qui travaillent sur la diversité culturelle ou qui du moins ont une manière plurielle d'aborder la culture à travers leurs œuvres. Nous avons tenté ensemble de définir le terme de diversité culturelle, de trouver des moyens pour l'aborder afin de faire une place à tous les jeunes dans les espaces publics. Nos réflexions nous ont conduit à nous interroger sur les droits culturels. Donc c'est un terme émergent, une manière d'aborder l'interculturalité. Mais concrètement, quelle définition, quelle place, quel cadre et comment les mettre en place dans les espaces dédiés aux jeunes? Il y a quelques mois, un travail autour de cette thématique a été réalisé à l'échelle de la métropole. Et nous avons avec nous aujourd'hui trois professionnels de la culture pour témoigner de cette réflexion entreprise et des projets en cours à Rennes Métropole. Nathalie, vous êtes chargée de mission développement des publics à Rennes Métropole, à la direction de la culture. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur vos missions?
Alors, au sein de la direction de la culture, on va dire pour synthétiser, parce que sinon ça va prendre toutes les missions, je suis en charge des enjeux, on va dire, de participation à la vie culturelle. L'enjeu, c'est pas de faire en sorte qu'il y ait plus de monde dans les lieux culturels, on va dire, parce qu'on est sur un territoire où il y a quand même une appétence très forte, quoi, hein, sur les festivals, les lieux d'expo, les musées. Mais faire en sorte que tous ceux qui ne viendraient pas, on va dire, pour des raisons diverses et variées, qui vont des questions financières aux questions de barrières symboliques, hein, qui sont parfois plus importantes même. Voilà, trouver des leviers pour faire en sorte que vraiment tous participent à la vie culturelle, parce que justement, bah, après on en reviendra peut-être sur la question des droits culturels, c'est vraiment un enjeu aussi important, la question de la participation de tous.
Et du coup, ce travail, vous l'avez réalisé en partenariat avec un grand nombre d'acteurs locaux, notamment la caravane MJC. Nous recevons aujourd'hui donc deux de ces représentants, Charlotte et Rénal. Vous travaillez tous les deux dans cette association d'éducation populaire. Ce qui vous différencie, c'est que Charlotte, vous êtes bénévole dans l'association, au sein du conseil d'administration, et Rénal, vous êtes le directeur. La caravane MJC donc existe depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, propose des projets artistiques, culturels, sportifs aux habitants donc de Cervon-sur-Vilaine et de Bressay. Bressay qui est une commune de Rennes Métropole. Charlotte, quels sont les trois principaux axes de vos actions? On disait que vous avez des projets culturels, artistiques, sportifs. Est-ce qu'il y a une ligne
Alors, on a trois portes d'entrée, en fait, hein, qui sont des activités hebdomadaires, à la fois artistiques, sportives, qui s'adressent à des jeunes et des moins jeunes, des tout petits, des personnes retraitées. Et on a aussi des activités qui sont essentiellement tournées vers les jeunes, donc à travers les locaux jeunes, mais aussi l'accompagnement d'initiatives des jeunes, et donc qui, par le biais de différentes accroches, qui peuvent être culturelles, justement, ou sportives, essentiellement, et un troisième biais qui est plus transversal au niveau de l'ensemble de l'association et du territoire, où on veille à ce que les gens se rencontrent, créent ensemble, participent eux-mêmes, se découvrent créateurs eux-mêmes, on appelle ça des processus de création. Concrètement, par exemple, on a un festival annuel qui s'appelle le Festival Vagabondage et Compagnie, qui a lieu au mois de mai, mais dès le mois d'octobre, des bénévoles participent à la réflexion autour de la programmation, autour de l'organisation, Et ils sont à pied d'œuvre, bien entendu, la semaine du festival, quoi. Et là, c'est pour eux l'occasion de se rencontrer et de faire ensemble, de participer à un projet ensemble. Et dans ce sens-là, de toucher au domaine culturel.
D'accord. Et du coup, Rénate, vous qui êtes directeur, cette volonté de faire entrer dans vos murs une interculturalité, c'est quelque chose qui existait déjà avant cette réflexion sur les droits culturels, j'imagine ?
Alors, en fait, Maison de Jeunes de la Culture, déjà on commence par ça, c'est bien un espace dans lequel on essaie d'amener les habitants, les adhérents à participer et à prendre part à la construction des projets. Donc effectivement, Charlotte parlait du festival, la programmation est complètement organisée par les bénévoles qui nous accompagnent. L'ensemble de la programmation sur tout au long de l'année est vraiment pensée avec les gens pour amener à participer. Pour revenir aussi sur ce que disait Nathalie et sur ses missions, on a aussi, nous, sur le territoire de Bressay et de Cervon, cet enjeu d'amener les habitants à la MJC pour voir des spectacles, mais aussi à organiser, notamment chez les habitants, des spectacles pour notamment régler l'espèce de barrière symbolique de la salle de théâtre. Mais du coup, d'aller chez son voisin regarder une pièce de théâtre, c'est pas la même chose que d'aller au TNB, quoi. Voilà.
D'accord, d'ouvrir différents espaces pour en fait s'adresser au plus grand nombre.
Exactement ça. C'est vraiment le pari est de proposer des actions dans lesquelles les personnes vont prendre part et vont vraiment s'exaucer, quoi. Voilà.
D'accord.
On est bien sûr l'émancipation, quoi. On se construit en participant et en construisant des choses avec les autres.
Ok, merci pour cette présentation de vos actions, de vos missions. Avant de récolter vos témoignages sur la démarche entreprise à Rennes Métropole sur les droits culturels, on pourrait s'attacher, ou en tout cas essayer de le faire, de définir en fait les droits culturels. Donc c'est pas forcément très facile. En tout cas, la déclaration de Fribourg donc de 2007 donne quelques indications. Elle donne une définition. Elle promeut donc la protection de la diversité culturelle et des droits culturels au sein du système des droits de l'homme. Elle entend largement la notion de culture. Donc ça, c'est une dimension très intéressante aussi de l'état d'esprit, en fait. Et également, elle place donc l'individu au centre des enjeux. Et donc, moi, c'est ce qui me semble être primordial. Nathalie, quelle est votre définition des droits culturels ?
Alors, je n'ai pas de définition personnelle. Je pourrais juste dire qu'effectivement, c'est un changement de paradigme considérable dans l'approche des politiques culturelles par rapport à l'histoire, on va dire, des politiques culturelles dont on va pas parler là, mais c'est quand même un changement très important parce qu'effectivement, on est sur une approche droit humain. Et effectivement, comme tu l'as dit, ça met l'individu au centre. Et moi, ce qui me semble assez intéressant dans la question des droits culturels, hein, c'est que ça nous permet de aussi, du point de vue de la politique culturelle, ça nous permet aussi d'avoir une approche très horizontale des choses. De dire que, alors qu'on est héritier de ça, il n'y a pas de hiérarchie, on va dire, en termes de pratiques culturelles. C'est-à-dire que, et même d'arrêter de parler d'accès à la culture. Et ça, c'est, je trouve que au quotidien, par exemple, sur l'endroit où moi je suis, sur le travail d'une direction de la culture, je trouve que c'est une dimension importante parce qu'en fait, il est juste de dire que tout le monde a une pratique culturelle. Il n'y a pas besoin d'aller, pour continuer sur ton exemple, d'aller au TNB ou qui aller voir une représentation théâtrale chez son voisin pour la première fois et découvrir le théâtre à cet endroit-là. Et bien cet individu, en fait, dans son quotidien, il a une pratique culturelle. Et tout l'enjeu du travail autour des droits culturels, c'est d'ouvrir le panel des pratiques parce que plus on est à la découverte d'autres pratiques culturelles, plus on découvre sur soi-même sa capacité. Parce que la question de droit culturel, c'est aussi comment on travaille sur la capacité ou la capacité à faire à agir des personnes. Et du coup, plus on se découvre soi-même sur sa capacité à aimer, à découvrir. Et du coup, l'enjeu, c'est quand même la question de l'altérité. Et je trouve que c'est une dimension, dans l'époque qu'on vit aujourd'hui, c'est une dimension fondamentale. Et ce que je trouve moins intéressant par rapport à à mon parcours, ce que j'ai pu faire et tout ce que je croise dans le métier, c'est que ça permet aussi de rassembler une communauté de personnes qu'on a pu rassembler sur la feuille de route, des artistes, des professionnels de grosses institutions, directeurs, conservateurs, etc., mais aussi des gens qui sont travailleurs sociaux, qui sont animateurs. Et en fait, les droits culturels mettent enfin, c'est un texte qui met enfin quelque chose sur des valeurs que tous nous partageons, parce que pourquoi ça a du sens d'aller découvrir du théâtre ici ou ailleurs? C'est parce que voilà, c'est quelque chose d'important sur les personnes et sur la construction des personnes. Donc voilà un peu, c'est pas une définition, c'est plutôt un sentiment quoi, de quotidien de travail sur ces questions.
Et du coup, dans ce cadre-là, chaque personne en fait serait acteur de sa culture et porteur en fait de ses valeurs et
Oui, puis en fait, moi, il y a ce que on utilise le terme participation très souvent quand on parle des droits culturels. Et pour moi, c'est aussi issu de lecture autour des textes fondateurs, on va dire, des droits culturels. C'est la question de la participation. Bah, pour moi, il y a participer. Il y a un peu trois manières de participer. Il y a prendre part. Je prends part à la vie culturelle. J'y participe, etc. Il y a donner une part, c'est-à-dire qu'en fait, je donne quelque chose de ce que je suis. Donc, ça peut être dans un projet participatif, une création participative, là on est dedans, et puis c'est recevoir aussi une part. Donc la participation, elle est sur ces trois enjeux-là, et de fait ça répond un peu à cette question, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est aussi la reconnaissance de sa propre patte culturelle. Mmh. Comme on est sur... alors c'est pas parce qu'il n'y a pas de hiérarchie qu'on nivelle tout non plus, hein, parce qu'il y a beaucoup de défiance par rapport au texte, notamment de la part des professionnels, ça veut pas dire que ça nivelle, mais en tout cas, voilà, tout le monde a une place dans cette manière de voir.
Et du coup, ce travail en partenariat avec une multitude d'acteurs à la MJC Caravane, c'est déjà quelque chose que vous aviez enclenché. C'est pas forcément facile de travailler avec un grand nombre d'acteurs. Comment est-ce que vous travaillez sur les questions d'interculturalité avec vos voisins, d'autres structures en fait culturelles ou de jeunesse ou
Alors, l'expérience fait beaucoup. Une fois qu'on donne l'occasion à quelqu'un de s'expérimenter en train de se découvrir, de se transformer avec son voisin, qui va retrouver le lendemain au marché, la semaine d'après à la sortie d'école, là, il se passe quelque chose, en fait. Là, les gens, d'un seul coup, se sont révélés les uns les autres, ont grandi ensemble, sur un point bien particulier, hein, d'une création ou d'une réflexion commune. Et ça change tout dans le rapport aux autres, en fait. Et c'est là que c'est le plus important. Moi, j'ajouterais à ce qu'a dit Nathalie, les droits culturels nous amènent le lien entre les gens. Il ne suffit pas de chacun avoir notre culture, nos cultures. C'est comment nos cultures circulent les unes avec les autres, entre nous, et comment on se les partage, comment on se les auto-découvre. Moi, c'est en ayant fait une rédaction d'un texte qu'on a fait, on était une dizaine, que j'ai découvert les gens qui habitaient pas loin de chez moi, mais aussi que j'ai découvert comment j'étais capable de faire. Et donc, on revient à la participation que tu évoquais, Nathalie, hein, qui va dans les deux sens. Alors, ça, c'est donc, on donne l'occasion à des gens d'expérimenter. Ça, c'est un premier point pour revenir à ta question initiale. Secondo, c'est aussi inviter nos partenaires, là plutôt institutionnels, à se risquer avec nous. Mmh. Et donc là, il y a un aspect plonger ensemble, emmener les gens avec nous et qu'eux-mêmes, en tant qu'institution, fassent aussi l'expérience. La dimension des droits culturels, elle est à tous les étages, quoi, en fait. Hein, c'est là entre particuliers, entre adhérents de la MJC, mais c'est aussi entre nos partenaires. Et au départ, effectivement, ça peut être un peu froid, un peu timide. Et tout doucement, ils se rendent compte que ça en vaut la peine, quoi.
Et du coup, Rénal, pour animer en fait vos murs, vos lieux, vos espaces, pour pouvoir faire entrer des droits culturels, sans forcément que les personnes ne s'en rendent compte, parce que l'idée, c'est de créer et d'être spontané aussi dans ce qu'on propose. Est-ce qu'il y a des méthodes ?
Il n'y a pas de méthode particulière, mais il y a surtout, moi je trouve que les droits culturels là viennent éclairer le travail que l'éducation populaire fait depuis 30-40 ans. C'est-à-dire que aujourd'hui, le travail qu'on peut faire dans une MJC avec le prisme des droits culturels prend autant d'importance que ce que peut faire aussi une structure culturelle. C'est-à-dire que y a la limite entre le secteur socioculturel et le secteur culturel s'efface. Voilà, parce qu'en fait, on met ensemble, au cœur de chacun des projets, l'individu, et ça part de là, en fait. On n'est plus sur des grandes commandes ou des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment de partir de ce dont les gens ont envie, quoi. Et alors, ça, c'est la méthode. Enfin, c'est la mienne, toujours. Et je ne suis pas le seul, hein, c'est partagé. Il semble plus intéressant de travailler avec des habitants, avec des adhérents sur une question qui va émerger sur un projet, que d'apporter des choses toutes faites qui soient descendantes. On le sait bien que plus on est impliqué dans la vie de notre quartier, de notre commune, de notre métropole, et plus on a envie de le faire vivre ou de la faire vivre. Quand les choses sont descendantes, ben on y vient une fois et puis on ne revient pas. Quoi. Voilà, ça y est, ça c'est fait. Alors qu'effectivement, il y a tout l'enjeu de la participation, il y a tout l'enjeu de comment, ensemble, on construit quelque chose qui va nous plaire, en fait. Mmh.
Voilà. Comment mobiliser un peu un grand nombre de personnes. Et ça fait un peu écho à ce que disait un des invités la dernière fois. En fait, donc, il disait un peu comme vous, que en fait, lorsqu'on voulait toucher les jeunes, parce que c'était un peu le sujet, il fallait... Enfin, pas parler pour les jeunes, mais bien leur donner la parole. Et que peut-être aussi pour que chacun puisse se retrouver dans différentes pratiques, décloisonner aussi les pratiques, voilà, mettre du théâtre avec, je sais pas, un autre style d'art, réfléchir vraiment autrement et à ce qui n'existait pas forcément.
Et aussi simplement se dire que... Voilà, un exemple, la voisine de la MJC qui sait faire le pot-au-feu admirablement, et ben fait un atelier avec les ados et au final on partage un pot-au-feu ensemble. Et ben ça c'est de la culture, voilà. Il s'est passé quelque chose, voilà. Les gosses rentrent à la maison, ils savent faire un pot-au-feu. Et en plus ils ont partagé avec la voisine, et donc voilà, il y a des choses qui se construisent, voilà. Et c'est bien ça l'enjeu, enfin, c'est vraiment ce que moi j'y mets derrière les droits culturels, c'est cette lecture nouvelle de nos projets, et une lecture plus généraliste, en fait, voilà.
Des droits, enfin de la culture, quoi.
De la culture, ouais. et du quotidien, en fait. Ouais.
D'accord, ben merci pour vos définitions. On va faire une petite pause avant de poursuivre nos échanges et nous nous retrouvons dans quelques minutes. I won't be leaving till the light of the sun. There ain't no point in tears of grieving, no deceiving, you know how it's done. You'll always be the only one. I'm taking my chances in love with just one. Got my heart on the real song. You'll always be the only one. I'm taking no chances, my choosing is done. And I'm far from a hero. You'll always be the only one. Don't think about the worst of mama, I'm just out to hold you down. Just pick up the vibe you're robbing, ain't no need to shop around. Ain't taking no chances, mama, I know you's the only one. No time for no broke romances, I swear now the game's done. I'm taking my chances in love with just one. Got my heart on the real soul. You'll always be the only one. I'm taking no chances, my choosing is done. And I'm far from a hero, you'll always be the only one. And when I wake up in the morning, you'll be gone and I'll be back on the run. And I ain't mad at you for leaving, that's the reason why we both chose to come. You'll always be the only one, you'll always be the only one. Taking my chances in love with just one. Got my heart on the real song. You'll always be the only one. I'm taking no chances. My choosing is done. And I'm far from a hero. You'll always be the only one. I can't go.
Possible.
Vous êtes en direct de la Jeunesse des Possibles. Je suis avec Nathalie Ribet, chargée de mission développement des publics à la direction de la culture de Rennes Métropole, avec Rénal de Pouplard et Charlotte Bondu de la Caravane MJC, association d'éducation populaire sur les territoires de Cervon-sur-Vilaine et Bressey. Avant ce petit interlude musical, nous échangeons sur la définition que nous pouvions apporter des droits culturels, des différentes approches, mais également de vos expériences professionnelles. Si vous le voulez bien, on pourrait revenir sur cette démarche qui a été entreprise à l'échelle de Rennes Métropole, sur cette envie de définir et d'inclure les droits culturels à la démarche culturelle de Rennes Métropole. Nathalie, est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse du projet ?
Comme je le disais tout à l'heure, comme c'est vraiment une approche assez différente de ce qui se faisait, on va dire, traditionnellement en matière d'action publique, en matière de politique culturelle. En même temps, il y a un élément très important qu'il faut dire ici, c'est que les droits culturels, c'est aujourd'hui réglementaire, sont un corpus de documents dont la déclaration de Fribourg fait partie, qui sont qui ont un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Mais depuis 2015, les droits culturels sont dans la loi. Alors, je vais être un peu techno, un peu jargonneuse, je suis désolée, mais c'est ce qui nous permet aussi d'agir. C'est le fait que la loi, en fait, les droits culturels sont nommés dans la loi, notamment dans une loi qui est la loi qui organise, l'action publique, les collectivités territoriale. Je fais court et synthétique, mais voilà. Et donc, et puis aussi dans une autre loi qui est importante pour la politique culturelle, qui est la loi création et patrimoine. Voilà, c'est le cadre réglementaire. Et dedans, on parle des droits culturels. Mais ces droits culturels ne sont pas définis. Mais pour autant, c'est le cadre d'action en matière de politique culturelle de l'ensemble des collectivités territoriales et des services de l'État, donc aussi le ministère de la Culture. Et donc à partir de là, une fois que c'est nommé et qu'on se rend compte que tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance, d'appréhension, de compréhension, voire de défiance, l'idée c'est de faire culture commune. Donc on s'est mis autour de la table avec la région Bretagne, le département d'Ille-et-Vilaine, la ville de Rennes et Rennes Métropole, et on s'est dit travaillons ensemble. Et en fait, l'idée, c'était qu'on soit tous au même niveau. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de descendre une définition, une manière de faire, mais en fait de construire tous ensemble, à partir des documents, des textes de référence, de traverser ensemble tout ça, de brasser tout ça et de se dire, et d'être à la fois sur cette approche théorique, parce qu'on a fait venir des gens, notamment Patrice Meyerbich, qui est un philosophe plutôt extrêmement intéressant dans sa manière d'aborder la question, et puis qui fait partie des gens qui nourrissent énormément intellectuellement la dynamique. Et puis à partir de ça, une fois qu'on a la théorie, qu'on sait à peu près de quoi il repart, quoi il retourne, ce que ça change, travaillons à partir d'exemples concrets et pratiques, avec une sorte de grille de lecture. Alors c'est une méthodologie de travail comme une autre, elle est celle de notre partenaire dans la situation actuelle, c'est Réseau Culture 21. Et donc pour ça, il fallait du temps. Donc il fallait, toutes les collectivités ont invité tout le territoire, donc professionnels de la culture, mais aussi évidemment d'autres. De fait, comme ça s'appelle droit culturel, il y a beaucoup d'acteurs culturels, professionnels de la culture qui sont présents, mais pour autant, et c'est presque, il ne faudrait pas que ça s'appelle comme ça, c'est un autre débat, mais voilà. Et puis voilà, on s'est vus pendant 5 journées, et avec une mobilisation assez forte, comparativement à d'autres territoires, parce que les personnes avec qui on travaille nous rendent compte de ça, parce qu'elle travaille à l'échelle du territoire national, sur un territoire qui a très envie de se retrouver pour discuter. Et à partir de là, mise en œuvre, et puis des rencontres. L'idée, c'est à l'image des droits culturels, qu'on soit tous ensemble, au même endroit de réflexion. Il n'y a pas de hiérarchie, d'aspect descendant. On est tous ensemble au même niveau de décortiquage,
Et du coup, immédiatement, ça vous a paru assez naturel, d'inviter autour de la table tous les acteurs, non pas uniquement institutionnels, mais les acteurs de terrain.
À partir du moment où on accepte que les droits culturels, c'est une définition anthropologique de la question culturelle, c'était logique. On ne pouvait pas faire autrement, à la fois dans l'invitation à faire, et même on regrette qu'il n'y ait pas eu d'acteurs de l'éducation, pas assez de travailleurs sociaux, et pour autant on est sur des espaces de travail communs avec les travailleurs sociaux qui sont réguliers. Mais voilà, après, ça, c'est, je pense qu'il va falloir du temps. C'est quelque chose de récent. Et puis, je termine ma boucle. L'aspect réglementaire du début de mon intervention, là, elle ne nomme les droits culturels qu'en matière de politique culturelle. Et donc, du coup, de fait, ça restreint. Alors que quand on commence à creuser, on se rend compte que ça touche énormément de choses, et notamment des questions de citoyenneté, d'émancipation, etc., qui sont bien au-delà des questions à proprement culturelles, ou au sens qu'on entend traditionnellement chez nous.
Et alors, du coup, Charlotte, vous qui avez participé à cette réflexion, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistait ces rencontres, ces échanges que vous avez pu découvrir? Vous parliez de cas concrets.
Alors, on est parti de la définition. En fait, Patrick Meyerbich a participé à la rédaction de la déclaration de Fribourg. Donc, il a pu nous éclairer parce qu'il a vécu le travail, la synthèse de tout ça. Et très vite, on a plongé dans ce que nous faisions, nous, les uns les autres, dans nos activités, dans nos projets. Et on a été invités à analyser une action qu'on mettait en place, en fait. Donc, nous, on a très vite choisi une des activités qu'on a eues cette année. Un Zombie Trip 2, ça s'appelle, un projet de vidéo. Et ce qui est intéressant dans ce projet vidéo, c'est que, par exemple, c'est une initiative qui est partie de jeunes, mais qui très vite a été élargie à l'ensemble des adhérents de l'association. C'est-à-dire qu'ils étaient 5, 10 au départ, et on les a invités à élargir ce projet à des plus grands, parce qu'ils étaient pré-ados, à mais aussi des adultes, ou alors des plus jeunes. Et on s'est rendu compte très vite que une activité comme celle-là pouvait mobiliser beaucoup, beaucoup de gens sur Cervon et Bressay. Et on a été invité à relire ça à travers les 8 axes des droits culturels, parce qu'on dit qu'il y a 8 portes d'entrée qui nous facilitent un peu les entrées, mais les entrées se croisent et se superposent en partie. Et ça a été pour nous l'occasion de voir qu'on nageait dans les droits culturels depuis déjà bien longtemps. Ça a été surprenant pour nous, en fait, hein, grâce certainement justement à cette pédagogie que Reynald citait, l'éducation populaire. Et que dire je cherche un point concret de par exemple l'animateur jeunesse de la MJC qui a coordonné, donc qui a repéré qui étaient les jeunes qui étaient intéressés par ce projet, les a repérés, leur a proposé de faire un film, a réuni une équipe de professionnels vidéo, musique, maquillage, mais a aussi organisé tout le montage, toute l'écriture. Et lui-même ne se rendait pas compte lui-même du rôle qu'il avait dans le projet. Et en relisant, il a fini par toucher du doigt que lui-même, il était un acteur clé du projet et qu'il avait donné l'occasion à des jeunes de s'exprimer, à des mamans de créer des éléments de décor, à des grands-parents de s'investir ponctuellement dans le tournage, et à des habitants d'accueillir des scènes de tournage, par exemple. Lui-même, il ne se rendait pas compte qu'il était un des acteurs propres, un des acteurs phares. Et résultat, en relisant cette expérience, il a pu voir à quel point il était
à fond dans les droits culturels.
Voilà, exactement.
c'est ça qui semble intéressant, c'est que en fait, lorsqu'on voit un peu tout ce que vous pouvez mettre en place, on s'aperçoit que dès lors qu'on s'interroge pour proposer des actions qui fonctionnent, qui marchent, qui touchent les publics ciblés par les structures, et finalement, on laisse sa place à chacun. Et dans ce cadre-là, les droits culturels fonctionnent. Est-ce que, Reynald, vous, suite à ces réflexions, vous avez dû... ça a peut-être réinterrogé vos pratiques. C'est des choses que vous mettiez déjà en place. Est-ce qu'il y a des choses depuis ces réflexions qui ont évolué dans vos pratiques ou pas? Ou est-ce que ça a plutôt conforté vos manières de faire?
Alors, oui, ça a complètement conforté, éclairé. Le vrai travail avec cette approche, c'est effectivement d'aller regarder comment on bossait avant et est-ce qu'on était loin de quelque chose, est-ce qu'on était loin de cette volonté de participation? Parce que, mine de rien, dans nos métiers, avant d'être directeur de MJC, je suis d'abord animateur socioculturel. Et dans nos métiers, la participation, c'est quelque chose d'hyper important. Et puis, il y a des fois où on se retrouve face à des projets où... Mais on force un peu la participation parce que faut exister aussi. Enfin, voilà. Les droits culturels nous disent que nous confortent dans si ça marche pas, c'est pas grave non plus. Voilà, c'est-à-dire que parce qu'on met au devant de la scène des participants, et ben c'est eux le curseur, en fait. Voilà. Et peut-être que la proposition que nous on fait à la base, et ben elle n'est pas bonne, en fait. Voilà. Parce qu'on ne sait pas tout et que c'est normal. Et que du coup, c'est bien parce qu'on s'appuie de l'avis de l'autre que ben, le curseur bouge, et puis ben, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Mais du coup, c'est, en termes d'expérimentation, c'est hyper intéressant, parce que ça veut dire qu'on peut développer plein de choses, et puis ne pas aller au bout de tout aussi. Oui. Et ce n'est pas négatif de ne pas aller au bout de tout. Ça participe au chemin aussi qu'on fait ensemble. Voilà, parce qu'on ne va pas se retrouver là sur un projet, mais dans 6 mois, eh ben, ça va avoir éveillé des choses. Et voilà, c'est constamment comme si on remettait une allumette à la mèche, quoi. Enfin, c'est un peu comme ça, moi, que je vis les choses. C'est-à-dire que c'est une dynamique, en fait. Voilà, c'est ça. C'est pas quelque chose de posé, c'est vraiment une dynamique dans
qui
le temps, dans l'espace.
Et qui s'adapte.
Exactement, complètement. Ouais,
et, ouais. Et puis qui est à l'écoute aussi, du coup, de ses publics. Et du coup, alors, vous avez travaillé donc, sur cette réflexion. Est-ce que pour 2019, il y a des choses qui vont avoir lieu, des moments forts autour de ces droits culturels?
Alors, on s'est quitté, la dernière journée était fin novembre, avec plein de pistes de travail. Avec, alors, le premier scénario, c'est aussi que là, c'est comme des sortes d'ambassadeurs qui... Alors, au total, c'est presque 200 personnes qui ont été touchées par la feuille de route, là. Donc, c'est le signe d'une forte mobilisation, en tout cas des gens qui sont capables aussi, parce que c'est aussi une manière de prendre un pas de côté par rapport à son temps de travail, ses projets qu'on mène, voilà. Donc déjà, chacune de ces personnes est potentiellement aujourd'hui en capacité de pouvoir créer des petites instances de réflexion, être aguerrie sur cette grille de lecture avec des mots-clés aussi, l'éducation à la communauté, la diversité, etc. Donc du coup, c'est aussi comment ça change un peu le logiciel dans la manière de faire au quotidien. Et puis après, voilà, chacun, on sait que certains vont prendre la main chez eux, dans leur structure, dans leur asso, etc. Ensuite, du coup, ça a quand même créé quelque chose. Donc, du coup, l'enjeu pour nous, c'est de répondre à une attente qui a été exprimée en tant que telle. C'est-à-dire qu'il y a une attente à ce que si les partenaires publics continuent d'être force de proposition. Donc, très concrètement, vendredi, il y a un séminaire organisé ici en partenariat avec l'Université de Rennes 2. Que du coup nous avons associé en fait à la dynamique. En tout cas, moi j'ai convié l'ensemble des personnes qui ont fait la feuille de route à venir à ce séminaire qu'on fait en partenariat avec Rennes 2 autour d'un dispositif qui s'appelle Passeurs du Culture, qui est vraiment sur le lien champ social et culture, hein, en quoi justement la question culturelle et artistique c'est un levier d'accompagnement des projets d'insertion des personnes. Qu'on ne traite pas que de l'accès au logement, que de l'accès au travail, que voilà, mais que la question de la considération des personnes dans leur globalité, c'est un item des droits culturels et ça sert sur le. Donc on a un séminaire vendredi toute la journée. Donc c'est aux archives départ vendredi 11 janvier pardon. C'est ça, 11 janvier. Oui, vendredi 11 janvier aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine toute la journée avec des intervenants, des témoins d'expérience, etc. Sur le thème culture et champ social.
D'accord. Et tout le monde est invité. Oui. En dehors de la thématique culture.
Ah oui. Et surtout, beaucoup avec le champ social, puisque le thème de ce séminaire, c'est justement culture et champ social, les sens, au sens double sens, de la rencontre, justement. D'accord. Et puis, il y aura un autre temps au mois de février, qui est le résultat, pour le coup, très direct, parce qu'autant ce séminaire avec Rennes 2, là, c'est quelque chose que finalement, on a associé à la dynamique. Il y a un temps dédié directement, qui est le résultat direct de cette feuille de route, qui aura lieu le 8 février. Sur les droits culturels et la question patrimoniale, c'est-à-dire en quoi justement sur la question du patrimoine il y a quelque chose de vraiment intéressant à travailler. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que les textes dont on fait référence ici sont des textes internationaux et notamment dans un contexte de disparition de culture et de langue. Et donc c'est pour ça que beaucoup des questions liées au patrimoine sont très intéressantes à traiter avec la question des droits culturels. Donc on a une journée le 8 février, voilà, au Champ Libre. À la salle de conférence Hubert Curien sur cette question. Et puis il y aura évidemment d'autres rendez-vous qui ne sont pas encore précisés, mais l'idée c'est qu'on puisse à nouveau nous donner rendez-vous en tant que partenaire public aussi, au-delà de ce qui peut se faire indépendamment de nous, bien sûr.
D'accord. Et du coup, la caravane MJC, vous qui avez participé du coup à cette démarche, est-ce qu'il y a de nouveaux projets pour le 2019 que vous avez qui sont liés à ce que vous avez pu découvrir en fait dans le cadre de ces de cette réflexion?
Oui, moi j'ai deux axes en tête. C'est en nous accaparant avec d'autres mots, avec d'autres réalités, en touchant du doigt par cette analyse de cas là, donc, que j'ai citée tout à l'heure, là, de l'expérience bien, bien concrète et vécue à Cervon et Bresset, on a appris à poser d'autres mots et du coup on a appris à parler de notre manière de faire autrement. Et certainement que ça va nous aider dans nos partenariats, dans nos relations avec nos partenaires, notamment élus municipaux. Parce qu'on sent qu'on a parfois du mal à se comprendre les uns les autres, même si on a des objectifs communs très clairs. Donc ça, c'est un premier point. Mais ça, ça va se faire tout doucement. Et puis, secondo, donc là, c'est en tant qu'administratrice que je parle. Et secondo, toujours en tant qu'administratrice, nous nous lançons là dans la rédaction d'un nouveau projet associatif. Et on a bien l'intention de relire toutes nos activités, toutes nos manières de fonctionner au travers des droits culturels. Donc vraiment passer le filtre. Et dans ce sens-là, nous transformer dans notre manière de traduire nos activités aujourd'hui, quoi.
D'accord. Et Reynald, du coup, est-ce que vous avez pu, vous disiez, peut-être être ambassadeur de ce que vous faites dans le territoire de Cervon et de Bresset, ou est-ce que vous êtes en lien avec d'autres professionnels pour pouvoir témoigner de cette démarche et essayer d'inviter d'autres professionnels à avoir cette même réflexion, cette même lecture?
Oui. C'est les projets qui font les réseaux, en fait. Donc, du coup, effectivement, plus localement, on travaille avec les animateurs jeunesse, avec les médiathèques, des différentes communes qui entourent Cervon et Bresset. Mais aussi, la MJC est adhérente à la Fédération régionale des MJC de Bretagne. Et du coup, c'est un sujet aussi dont on parle beaucoup entre les 23 MJC de Bretagne. Donc oui. C'est vraiment au cœur de nos préoccupations, à la fois pour effectivement vulgariser notre discours auprès de d'élus municipaux, mais aussi auprès de partenaires. Voilà, oui, c'est vraiment les droits culturels sont devenus là, nous, depuis, je trouve, 2 ans là, c'est le leitmotiv, quoi. Enfin, voilà, là, on pour pas faire trop non plus de techno, mais on est la MJC est aussi espace de vie sociale, donc c'est quelque chose qui est signé avec les caisses d'allocation familiale. Ça rebondit du coup sur ce que tu disais tout à l'heure, Nathalie. Et donc nous aussi, effectivement, en tant que structure agréée par les services de la CAF, qu'on ait une entrée droit culturel dans l'écriture de notre projet associatif, c'est aussi quelque chose de complètement révolutionnaire, entre guillemets, bien entendu, mais parce qu'on utilise des mots du champ lexical de la culture, mais pour l'attribuer à des projets socioculturels, voire sociaux. Donc voilà, il y a des prismes là qui sont en train de se bouger. On est en train de faire culture commune, quoi. Voilà.
Ok, bah merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci Rénal, merci Charlotte, merci Nathalie d'avoir été avec nous. Merci à Aurélien de Radio Syllab. Merci à tous de nous écouter et à bientôt.
Au revoir. Au revoir.